France Inter. Ali Badou, Marion Lourd. Le 6-9.
Le journal Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour à tous. Il a aidé l'assaillant du marché de Noël de Strasbourg à se procurer une arme alors qu'il connaissait ses projets criminels. Audrey Mongei, condamné à 30 ans de réclusion. On reviendra sur le verdict après 5 semaines de procès. Quelle réaction au Rwanda suite aux déclarations d'Emmanuel Macron 30 ans après le génocide, on en parlait à l'instant. La France aurait pu l'arrêter mais n'en a pas eu la volonté, dit le président français. Nous serons à Kigali. À suivre aussi Édouard Philippe qui réunit ses troupes à Besançon, objectif 2027, et des nouvelles plutôt rassurantes des stars du peloton pris dans une impressionnante chute sur le Tour du Pays Basque.
France Inter.
En l'absence du terroriste, il était le principal accusé du procès de l'attentat de Strasbourg.
Audrey Mongei écope de 30 ans de prison, dont 2/3 de sûreté. Le verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris est tombé hier soir, 5 ans et demi après ses attaques sur le marché de Noël. 5 morts, 11 blessés en décembre 2018 dans la capitale alsacienne. Charlotte Pires, ce matin, les parties civiles se disent soulagées par cette décision des magistrats professionnels.
Si la cour d'assises spécialement composée a estimé que le principal accusé, celui qui a fourni son arme au terroriste, si la cour a été convaincue qu'Audrey Mongei n'avait pas connaissance que ce revolver serait utilisé le soir même dans un attentat, elle a néanmoins rappelé l'extrême gravité des faits, la proximité du principal accusé avec le terroriste. Il savait que le projet criminel de Shérif Shekat était en cours d'élaboration, même s'il en ignorait les modalités précises, indique encore la présidente, qui retient également l'absence de toute remise en cause de l'accusé sur ses agissements et leur portée, avant de prononcer une peine de 30 ans de réclusion, non pour complicité mais pour association de malfaiteurs terroristes. Dans une salle complètement silencieuse malgré de nombreuses parties civiles présentes, deux autres accusés sont reconnus coupables d'association de malfaiteurs pour avoir participé à la recherche d'armes. Ces hommes qui comparaissaient libres évitent toutefois un retour en détention, condamnés à 3 et 4 ans de prison ferme. L'un a déjà tout effectué en détention provisoire, l'autre bénéficie d'un aménagement sous bracelet électronique. Le dernier accusé enfin est acquitté, car il n'a eu aucune participation aux faits, précise la présidente. Votre innocence a été reconnue par la Cour.
Il venait de sortir de son collège à Viry-Châtillon dans l'Essonne quand il a été passé à tabac par plusieurs agresseurs qui ont ensuite pris la fuite. Un adolescent de 15 ans est ce matin entre la vie et la mort à l'hôpital. Très violemment attaqué hier après-midi, aucune interpellation pour l'instant. Le maire de la ville parle d'un déchaînement d'ultra-violence. Cette nouvelle agression survient 2 jours après celle dont a été victime Samara, collégienne de 13 ans à Montpellier et qui elle est toujours hospitalisée mais sortie du coma. Des inspecteurs de l'éducation nationale sont attendus dès aujourd'hui dans son établissement. C'est la mission flash annoncée par la ministre Nicole Belloubet pour tenter de comprendre le contexte et l'enchaînement des faits. Dans les Deux-Sèvres, 2 mois après la disparition d'Erwan, 18 ans à la sortie d'une boîte de nuit, un corps retrouvé hier dans une rivière tout près du lieu de cette disparition. Son identité doit encore être formellement établie, mais des papiers au nom de l'étudiant ont aussi été découverts.
Pour Emmanuel Macron, la France aurait pu arrêter le génocide des Tutsis au Rwanda.
Mais elle n'en a pas eu la volonté à l'époque, en 94. Avec cette déclaration, le président français fait un pas supplémentaire vers la reconnaissance de la responsabilité française à l'occasion du 30e anniversaire des massacres. Il devrait le redire dans une vidéo qui sera diffusée dimanche, jour des commémorations à Kigali. Kigali où toutefois le chef de l'État ne se rendra pas alors qu'il y était invité par son homologue Paul Kagame. Alors comment réagit-on au Rwanda à ces propos relayés par l'Élysée hier? Sur place pour Inter, Paul Lorgerie.
Les autorités rwandaises ne se sont pas encore exprimées sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que les propos du président français, reconnaissant une fois de plus la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis en 1994, pourraient marquer un nouveau pas dans les relations entre Paris et Kigali, la capitale rwandaise. Car pour Naftali Ayishakier, secrétaire exécutif de l'association Ibuka, qui s'efforce de faire perdurer la mémoire des victimes, la communauté internationale a sa part de responsabilité dans ce drame.
Ce qu'a dit Emmanuel Macron est la vérité. Nous savons que la communauté internationale savait ce qu'il se passait, mais ils ont décidé de rester silencieux.
Selon des sources diplomatiques, Emmanuel Macron devait se rendre à Kigali à l'invitation du président rwandais, Paul Kagame. Il sera pourtant représenté par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, ainsi que par le secrétaire d'État en charge de la mer, Hervé Berville, né au Rwanda. Hors micro, des sources admettent que l'une des raisons avancées pour cette absence du président français concerne le conflit qui sévit depuis 2021 entre la République démocratique du Congo voisine et les rebelles du M23, accusés d'être soutenus par le Rwanda. Des combats qui ont jeté des centaines de milliers de personnes sur les routes et qui ont provoqué une crise humanitaire sans précédent. Kigali, Paul Lorgerie, France Inter.
Et on y revient donc avec votre invité Marion à 6h20. Joe Biden durcit clairement le ton à l'égard d'Israël. Le président américain a eu le premier ministre israélien au téléphone hier soir et pour la première fois, il a semblé conditionner la poursuite de l'aide américaine à l'État hébreu à des actions immédiates pour répondre à la crise humanitaire en cours à Gaza. Jusque-là, le soutien de Washington à Israël était inconditionnel. Dans la foulée, Israël annonce ce matin une augmentation sans délai de l'aide humanitaire à Gaza via le port d'Ashdod et le point de passage d'Erez.
6h06, on revient en France. Les écologistes mettent l'exécutif en difficulté à l'Assemblée nationale.
Et sur 3 textes examinés hier lors de leur niche parlementaire, 2 ont été adoptés contre l'avis du gouvernement. D'abord la loi anti-polluant éternel, même si les ustensiles de cuisine sont finalement exemptés. Et plus tard, hier soir, avant le couperet de minuit, feu vert au prix plancher pour les agriculteurs. Ça passe à 89 voix contre 66. La gauche a voté pour, la majorité contre. Le gouvernement s'y était opposé en parlant d'un dispositif inopérant. Le camp macroniste qui va suivre de près tout le week-end le grand séminaire du parti Horizon autour d'Édouard Philippe. 300 personnes attendues à Besançon jusqu'à dimanche pour structurer le parti en vue des prochaines échéances électorales. Même si ça tombe, Laurence Perron, 2 jours après la perquisition de la mairie du Havre dans une enquête qui vise notamment l'ex-premier ministre.
La perquisition, Édouard Philippe s'en serait bien passé, mais le Havrais affiche une sérénité olympienne. Ses proches l'assurent, Édouard n'est pas dans le buzz, dans les sondages, dans les mouvements gazeux. Il structure très sérieusement une offre politique dans le champ de ruines annoncé pour 2027, à l'ancienne, en faisant du terrain. Alors pourquoi Besançon pour son séminaire ? Pas parce qu'il y a des amis, mais parce qu'il entend planter partout des drapeaux. Accroître aussi une base militante qui, selon Horizon, avoisinerait les 25 000 adhérents payants à l'ancienne. L'intuition de l'ancien Premier ministre, c'est que les LR vont imploser et que le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron. Édouard Philippe, contrairement à ses concurrents putatifs, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, aurait gagné en tant que Premier ministre ses galons d'homme d'État. Ses soutiens y croient, ses détracteurs considèrent à l'inverse qu'il a sur le front le sceau de l'infamie macroniste et qu'il lui sera compliqué d'élargir un socle central qui semble se rabougrir à chaque consultation électorale.
Laurence Perron, rien ne va plus pour The Body Shop, l'enseigne britannique de cosmétiques. Elle avait déjà déposé le bilan au Royaume-Uni. Eh bien, hier, sa filiale française a été placée en redressement judiciaire. 66 boutiques, 260 salariés ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Pierre-Marie Moreau gère un body shop franchisé à Poitiers.
Nous avions été préparés à cette nouvelle parce que malheureusement, quand on observe ce qui se passe à travers les pays européens, pour la marque The Body Shop, la France a été le dernier pays placé dans cette procédure. Donc on s'y attendait, mais on est quand même tout choqué parce que, en l'occurrence, je parle de ce qui nous concerne, les franchises. En fait, le premier franchisé a moins d'un an sur le réseau France. Il faut savoir que nous avons tous été franchisés il y a moins d'un an et le dernier d'entre nous, la dernière franchise a ouvert en décembre, début décembre 2023. Donc c'est un peu la stupéfaction en fait.
Pierre-Marie Moreau, gérant d'une boutique franchisée The Body Shop, interrogé par Justine Clay.
Sur le Tour cycliste du Pays Basque, à présent la chute a été si violente qu'on aurait pu redouter un bilan encore bien plus grave.
Oui, c'est 8 coureurs qui sont tombés comme des quilles hier dans un virage, certains finissant dans un fossé en béton, d'autres entre des blocs de pierre, parmi eux des stars du peloton, dont le double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, parti sur civière, le dos en sang. Fanny Lechevestrier, entre-temps, les bulletins médicaux sont tombés. Multiples fractures, mais ça aurait pu, oui, être bien pire.
Des fractures aux côtes et d'une clavicule, selon le tout dernier communiqué publié par la Visma Lease a Bike, qui ce matin ne remettent pas en cause sa participation au Tour de France dans 3 mois. Des nouvelles presque rassurantes, au vu des images qui ont tourné en boucle sur les chaînes de télévision hier après-midi, faisant craindre le pire, avec un Jonas Vingegaard placé par les secours en position latérale de sécurité, avant d'être évacué de très longues minutes plus tard, minerve autour du cou et sous assistance respiratoire. Le pire aussi quand on a vu d'autres coureurs taper une coulée en béton juste à côté de blocs de pierre. Mais le bilan reste lourd. Remco Evenepoel a la clavicule et l'omoplate droite cassée. L'Australien Jevine, le cycliste le plus sévèrement touché, souffre de fractures au rachis cervical et à deux vertèbres dorsales. Des blessures qui font une fois de plus s'interroger sur la vitesse de plus en plus élevée au sein du peloton, entraînant toujours plus de dégâts en cas de chute.
Les précisions pour Inter de Fanny Lechevestrier.
Il est 6h10, l'Esprit Sport. Bonjour Cédric Guillaume.
Bonjour.
Ce matin, Cédric, on parle football et on va souffler les bougies de Cédric, un club mythique, les bougies Cédric. On va fêter demain les 90 ans de la AS Saint-Etienne.
Et c'est pas simple, Ali et Marion, de résumer 90 ans en 90 secondes, hein, oui. Mais on peut rappeler quand même aux plus jeunes que l'AS Saint-Etienne, ça a été le club phare du foot français dans les années 60-70.
Allez les Verts.
Allez les Verts, avec notamment plusieurs titres de champion de France. Alors on aime aussi parfois un club quand il y a une certaine dramaturgie autour de lui, et ça avait été le cas pour les Verts avec une mythique finale perdue en Coupe d'Europe des clubs champions, on appelait ça comme ça avant, perdue donc en mai 1976, 1-0 contre le Bayern Munich.
Il a encore regardé son chronomètre. Eh oui, Beckenbauer, le Bayern va garder la balle. Eh oui, c'est fini, le Bayern de Munich.
T'es tout petit à l'époque, mais bon, bébé, Saint-Etienne qui était quand même à cette époque la capitale du foot français.
Et la suite sera moins réjouissante.
Oui, avec notamment l'affaire dite de la caisse noire, hein, des sommes d'argent détournées de la billetterie et de la boutique du club qui auraient servi à rétribuer en sous-main une dizaine de joueurs.
L'Assemblée générale de l'AS Saint-Etienne, une assemblée qui siège sur un baril de poudre.
Alors l'AS Saint-Etienne a mis du temps à s'en remettre, descendra en Ligue 2 avant la renaissance et une remontée parmi l'élite en mai 2004. Saint-Etienne qui gagnera une Coupe de la Ligue en 2013 avant de s'effondrer de nouveau.
Attention, Aubameyang le centre. Ça va devenir pas.
Fabien Lévesque sur France 2. Alors les supporters des Verts vont fêter les 90 ans du club demain à 15h lors de la 31e journée de Ligue 2 contre Concarneau. On est quand même loin du lustre d'antan, oui. Mais il y a un petit peu d'espoir parce que Saint-Etienne est à ce jour troisième du championnat de Ligue 2.
Merci Cédric Guillou, c'était l'Esprit Sport.
À suivre, une histoire de livre empoisonné en Allemagne dans le Grand Angle et l'actuelle ruée vers l'or dans la chronique Esprit Pratique.